RMC.
Oh, le but incroyable! Mais quel coup franc de malade! Mais quel coup franc de malade! Mais c'est quoi ce coup franc? Quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Española! C'est pas fini les mecs, on va s'amuser! Oh, qu'on va s'amuser!
L'After Espagne,
Nicolas Gilas.
Très heureux de vous retrouver dans votre podcast After Espagne. On n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de lâcher un com, un like sur son appli. Et ils sont de retour, ils nous ont manqué. Notre hôtelier Fred Hermel, salut Fredo.
Hola chicos.
Oui, ouais, celui-ci.
Ça va. Et on fait aller, tu sais, à mon âge. Le taulier, ça fait vieux quand même.
Bon, non, ça fait pas vieux, ça fait mec. Tu
ça
vois,
fait le parrain à qui on embrasse le.
Voilà, exactement.
Le bijou, là.
Exactement.
Oh, c'est moi, voilà. El Padrino.
On est avec notre star montante, Edgar Grollo. Salut Edgar.
Salut messieurs, comment ça va?
Salut Edgar.
Salut le taulier.
Bah, content de vous retrouver, les gars. Tout se passe bien, Edgar. Il paraît que tu prends très cher en ce moment, hein, quand même, en Espagne. Pas se mentir.
Il y a de l'actu. Il y a de l'actu. On s'ennuie pas depuis le début.
Bah, ouais, c'est ce que j'ai vécu pendant 20 ans, mon petit gars. Moi, j'ai tenu 20 ans. On va voir combien de temps tu vas tenir, toi.
Non, mais ça va. J'ai une semaine de jours de repos à poser, là, tu vois. C'est des trucs comme ça. On est bien.
Quoi? T'as prononcé quoi comme mot?
Je sais pas quand ça viendra.
Le mec qui vient en Espagne.
Ça viendra. À Noël.
Bah, non, non. C'est Navidad, à Noël. On dit en espagnol Navidad.
Alors les gars, beaucoup moins drôle hein, ce podcast After Espagne. Dans ce podcast After Espagne, on va s'arrêter à analyser le début de saison de Villarreal, hein, le club de la région de Valence qui n'a pas joué ce week-end, tout comme son voisin de Valencia, la région qui a été dévastée par des inondations et qui ont fait plus de 200 victimes. Le Villarreal, Rayo Vallecano et le Valence Real Madrid ont été reportés. Mais pour beaucoup, c'est l'ensemble des rencontres qui auraient dû être décalées. Les joueurs, les entraîneurs de la Liga se sont exprimés d'une voix quasi unanime à ce sujet. La prise de parole de Vicente Moreno, l'entraîneur d'Osasuna, originaire de la région de Valence, a ému le football espagnol et pas que.
Non, quería mandar sobre todo todo el ánimo, toda la solidaridad pues a todas las personas que se han visto damnificadas por este desastre. Todas las personas que han perdido pues seres queridos.
Ouais, l'émotion hein, de Vicente Moreno, alors qui donne du courage hein, à toutes les victimes, qui envoie également beaucoup de soutien. Edgar, en Espagne, depuis cette tragédie appelée Dana, il y a beaucoup de débats, de polémiques sur le fait que bah, les matchs soient quand même joués finalement en Liga suite à ça.
Oui, clairement, il y a eu des matchs annulés, pas que en Liga, mais aussi tous les matchs amateurs dans la région, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a eu dans les autres régions de l'Espagne ces matchs qui ont eu lieu. Comme tu as dit, quasiment tous les joueurs, tous les entraîneurs qui ont pris la parole sur le sujet pensaient que les matchs n'auraient pas dû avoir lieu, mais disaient que voilà, ils n'avaient pas le choix, que ce n'était pas leur décision. Mais ce qui était frappant, je trouve, en tout cas ce qui m'a marqué, c'est que ce n'était pas du tout seulement les personnes originaires de la région, comme on a pu entendre, ou même seulement les Espagnols qui étaient touchés. C'est vraiment tout le monde. Je pense notamment à Carlo Ancelotti, où j'ai eu la chance d'être à sa conférence de presse à ce moment-là, et on le sentait vraiment marqué, en fait. Vraiment marqué par cette actualité, vraiment touché. Il n'avait plus envie de parler football, et c'est tout le pays, et pas seulement les Espagnols, qui se sont concernés pour ce problème, qui n'avaient pas envie de jouer, qui ont assuré, comme Diego Simeone l'a fait, que ça n'avait pas de sens de jouer cette journée de championnat. En tout cas, on sentait que ça pesait vraiment dans toutes les têtes, et que pour le coup, c'était vraiment des émotions sincères de la part de tout le monde.
Comment tu as réagi, Fred, en voyant que finalement la Liga avait décidé de maintenir les autres rencontres à part celle de Villarreal et de Valence donc.
Bah, bien sûr que c'était lamentable, mais en fait, bien entendu que Tebas voulait reporter.
C'est pas ce qu'il dit en tout cas. Mais,
mais il voulait reporter, mais il ne peut pas, il n'y a pas de place dans le calendrier. Alors Tebas ne peut pas décider lui-même, Tebas, bien sûr, président de la Liga, il doit faire une demande auprès de la fédération, et la fédération accepte ou non. Mais là, Tebas a fait la demande pour les deux clubs concernés, mais il ne l'a pas fait pour le reste, parce qu'il n'y a pas un trou dans le calendrier pour le remplir. C'est-à-dire le fameux Valence Real, normalement,
sait pas quand ce sera, hein.
Après la fin de la Liga.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait que le Real Madrid, si le Real Madrid, et c'est mal parti, hein, termine dans les 8 premiers de la Ligue des Champions, là, il n'y aura pas de play-off, donc il y aura un petit trou là, ouais. Et sauf que là, c'est mal barré. À mon avis, ils vont avoir du mal après les derniers résultats. Et donc, il faudrait ensuite que le Real Madrid soit rapidement éliminé de la Ligue des Champions, mais aussi de la Coupe du Roi, et Valence aussi de la Coupe du Roi. Donc en fait, c'est l'échec de planification, mais c'est comme partout dans tous les championnats, il y a trop de matchs, donc là c'est terrible. Franchement, ce week-end, il y avait une très belle... De toute façon, les journaux madrilènes, surtout AS Marca, ont été grandioses, les journaux sportifs. Ils n'ont fait 3-4 unes que sur la catastrophe. Et il y avait une très belle une de Marc lundi qui disait qui mettait le nombre de buts, je crois que c'était 39 buts, mais il y avait pas mais des buts de triste en fait.
Ouais.
Voilà, c'était il y avait pas le cœur au foot quoi.
Alors c'est vrai qu'il y a eu la presse, il y a une grosse vague de solidarité hein, suite à ça d'ailleurs Edgar en Espagne, le monde du foot d'une façon générale, c'est lié de solidarité vis-à-vis des victimes.
Oui, absolument tous les niveaux, à commencer bah, déjà évidemment par les minutes de silence, d'applaudissements classiques. Souvent, on avait l'hymne de la communauté de Valence qui jouait en fond. Il y a eu des hommages évidemment unanimes dans les stades, des bannières, tout ce que vous pouvez imaginer. On l'a vu notamment le dernier match du Real face à l'AC Milan où il y avait cet énorme drapeau de la communauté de Valence qui a été affiché dans les tribunes. Il y a aussi des clubs qui ont fait des dons importants. Le Real Madrid a fait don d'1 million d'euros. Le Barça a mis ses maillots aux enchères et donc va faire des dons par rapport à ça. L'Atlético a transformé son stade en centre de collecte et ensuite a donné l'équivalent de ce que ses supporters avaient donné et ils ont été très généreux. Valence avait transformé aussi Mestalla en centre de collecte, centre de dons. Et Fred en parlait aussi. C'est vrai que les médias se sont vraiment mis au diapason. Les médias, qui sont pourtant des médias 100% sportifs, ont dépassé le cadre du sport. Il a parlé évidemment de Marca et de AS, mais je pense aussi au Chiringuito, où c'était du 100% Valence, 100% soutien aux victimes des inondations.
Et ils ont fait
ils ont délocalisé leurs émissions.
Voilà, exactement.
Ouais, ouais. Ils ont délocalisé leurs émissions pour faire des collectes et ça a été vraiment un succès. Et c'est ce qui va ressortir aussi, je pense, beaucoup, si on s'éloigne aussi du sport, mais c'est ce qui va ressortir beaucoup de ces inondations, c'est la solidarité du peuple pour le peuple ici à Valence, c'est la phrase, en Espagne, c'est la phrase qui ressort, et je pense qu'il y a un élan de solidarité qui va, j'espère en tout cas, rester en Espagne, qui a marqué en tout cas beaucoup de monde, et c'est aller jusqu'au monde du sport, évidemment.
Alors, on va essayer de revenir au sport quand même. Hein. Parmi les clubs donateurs aux victimes de Dana, il y a Villarreal, qui, même s'il n'a pas joué ce week-end, reste aux 4 premières places de la Liga. Alors Edgar, il y a le Barça qui est loin devant dans le championnat espagnol et derrière dans le peloton, on retrouve notamment Villarreal donc.
Oui, ils sont vraiment pas loin. En plus, quatrième, 3 points de retard sur le Real, qui est deuxième. 2 points seulement sur l'Atlético, mais ils ont un match de retard. Donc, potentiellement, Villarreal peut compléter ce podium derrière le Barça et le Real. Et surtout, ce qui est frappant, c'est qu'ils ont seulement 2 défaites cette saison, face au Real, face au Barça. Donc, ça laisse percevoir, en tout cas, une régularité qui peut te donner des ailes, qui peut en tout cas te donner confiance pour le reste de la saison, ça c'est sûr.
Alors, est-ce que Fredo, ces défaites de Villarreal face au Real et face au Barça sont un signe finalement des limites de cette équipe, d'un espèce de plafond de verre?
Oui, clairement, parce qu'en plus les deux défaites étaient des victoires très 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 claires du Real et du Barça. Sincèrement, c'est le cas, mais c'est pas grave, parce qu'il y a une place derrière en fait. C'est-à-dire qu'il y a une place. Ouais. On sait qu'il y a le Real, le Barça, l'Atlético, ça dépend des jours.
Ouais, ils sont pas ouf. Hein.
Ils sont pas toujours extraordinaires. Donc il y a une place pour la troisième ou la quatrième place. Voilà, il y a un truc à faire là. Depuis des années, il y a plus Valence. Il n'y a plus Séville qui étaient les clubs, ouais, qui naturellement étaient là. La Real Sociedad n'est plus là du tout cette saison.
Il y a
l'Athletic Club de Bilbao. Donc il y a vraiment un coup à jouer pour être en Ligue des Champions la saison prochaine. Hein. Donc, ouais. Mais je pense sincèrement que si on suit dans cette dynamique, c'est pas pour aller titiller le titre pour le Real ou le Barça, mais d'entrer dans les 4 premiers, aujourd'hui, c'est pour un club comme Villarreal, mais c'est parfait. Hein. Ouais.
Et dans le, comme on disait, dans le top 3, c'est jouable aujourd'hui parce que Atlético, messieurs, pas très inspirant cette saison, assez irrégulier, ça peut être prenable pour Villarreal.
Gol del submarino, se adelanta el Villarreal, que construyó la jugada por dentro. Pasillo interior, hasta encontrar a Joz en la media luna, y el goleador no perdona.
Et Villarreal, c'est aussi la troisième meilleure attaque de la Liga, avec 21 buts marqués en 11 matchs, grâce notamment à Joz et Pérez, auteur d'un doublé, on vient de l'entendre à travers les coms de la Cadena Ser face à l'Espagnol Barcelone. Alors Edgar, Joz et Pérez, qui est passé par du Betis à Villarreal l'été dernier, est déjà dans l'histoire du club de Villarreal.
Oui, bah c'est pas compliqué, il fait les meilleurs débuts de l'histoire du club. 9 matchs, 10 buts, ça n'avait jamais été fait avant par un buteur. En Liga, il est à 7 buts, donc il n'y a que Robert Lewandowski qui fait mieux, qui a des stats stratosphériques. stratosphérique. Et ce qui est dingue, c'est que c'est un joueur qui explose véritablement sur le tard. Il a 31 ans, il est recruté, tu l'as dit, par au Betis pour seulement 4 millions. Donc on ne s'attend pas forcément à ce rendement-là. Et tout ça, ça lui permet de découvrir la sélection espagnole à cet âge-là. Ça, c'est quand même beau.
Il vient d'être rappelé d'ailleurs. Le jour où on enregistre ce podcast, d'ailleurs vendredi 8, il est rappelé par des
Louis
Felipe.
C'est l'un des symboles, j'ai envie de dire, des derniers symboles en tout cas de cette sélection, dans le sens, non pas que ce soit le joueur le plus important, loin de là, mais que pour moi ça représente cette sélection où c'est pas forcément des grands noms, pas forcément que des stars, et un joueur comme José Pérez, il peut arriver à avoir un rôle important, à faire le taf. On a l'impression que peu importe qui est sur le terrain, ils vont faire le boulot, et ça représente bien, je trouve, la mentalité qu'a instauré De La Fuente avec cette sélection.
Alors on va reparler un petit peu du savoir-faire en matière de recrutement de Villarreal dans un instant, Fred et Edgar, mais Fredo, c'est aussi l'incarnation d'une équipe qui est plutôt âgée, Villarreal, hein, d'ailleurs.
Oui.
Il a 31 ans déjà, José Pérez. Il signe des joueurs vieux aussi.
Ouais,
quoi,
bien sûr, oui. Je pense qu'ils ne font pas de paris insensés. Ouais. C'est-à-dire, comme ce n'est pas un club très riche, il ne peut pas se permettre de se louper, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a besoin de marquer. Tu as un type qui s'appelle José Pérez, qui vient de Tenerife, qui est très espagnol, qui est un bon joueur. C'est quelqu'un sur lequel tu peux compter. Et ça convient au style de Marcelino. Ça convient, parce qu'on l'évoquera aussi, il faut bien s'entendre avec Marcelino. Hein.
Ouais, on va en reparler. Ouais.
Là aussi. Donc,
mais juste pour vous donner la stat, en moyenne d'âge, l'effectif de Villarreal, c'est la sixième équipe la plus âgée de la Liga. Pour vous donner un ordre de comparaison, ils sont à plus de 26 ans de moyenne d'âge. Le Barça, c'est un autre extrême. Ils sont à moins de 20. Voilà. Ils sont à 22 ans et quelques. Le Real a même pas 25 ans. Et l'Atlético a un peu plus de 25 ans également. Ouais. Donc c'est une équipe qui est âgée, mais qui cartonne. Quoi.
Mais parce que voilà, c'est une équipe qui. Pour moi, c'est le club le plus intelligent d'Espagne, Villarreal. C'est vraiment c'est un club très bien géré. De toute façon, l'an dernier, ça avait un peu déconné parce qu'ils avaient changé beaucoup de. Ils s'étaient comportés comme les autres. C'est-à-dire.
Ils avaient flambé.
Ils avaient viré des entraîneurs, etc. Et puis à un moment, ils se sont dit oh là là, on perd notre identité, on perd notre manière de fonctionner. Et ils ont fait quoi? Ils ont appelé Marcelino en disant mais quel que soit le résultat en fin de saison, tu continues.
Je sens que tu as envie d'en parler de Marcelino.
Mais c'est vrai. Et donc, ils sont revenus. C'est un club bien géré. Déjà de Fernando Roche père, c'est le père et le fils aujourd'hui, mais moi je me souviens il y a quelques années quand ils étaient descendus en deuxième division, c'était pas un drame, ils avaient tout prévu et ils sont remontés très facilement, ils avaient mis de l'argent de côté. Voilà, c'est un club bien géré sportivement, économiquement et humainement, donc c'est aussi la raison pour laquelle on se dit pas, ah oui il faut qu'on prenne des jeunes ou on fait des gros paris sur des jeunes, non, on prend des joueurs qui on pense, en ce moment, peuvent être bons pour nous.
Et alors, Villarreal est donc installé sur les places qualificatives pour la Ligue des Champions en ce début de saison. Mais quel est donc l'objectif, l'ambition de son entraîneur, Marcelino Toral, la Ligue des Champions? Voilà ce que répond l'ex-éphémère entraîneur de l'OM à cette question.
Non, notre objectif est d'être meilleurs.
Notre objectif est d'être meilleur et il est évident qu'on doit s'améliorer encore dans beaucoup d'aspects du jeu. Nous sommes bien pour une équipe qui a connu autant de changements et qui avait un calendrier super difficile d'entrée. On a déjà joué contre le Barça et l'Atlético de Madrid. On peut être satisfait de nos joueurs dont certains viennent d'arriver. Certains ne maîtrisent pas la langue et avaient des difficultés en termes de communication.
L'idioma que tienen dificultades de comunicación.
Alors Edgar, on avait évoqué les gros que Villarreal avait déjà affrontés en ce tout début de saison. Il y a eu le Barça, le Real, il y a eu l'Atlético également. Alors c'est vrai que comme le souligne Marcelino dans ce son, le mercato a été quand même très agité à Villarreal l'été dernier.
Oui, clairement, c'est le cas de le dire. T'as 10 arrivées quand même, t'as presque le double de départ dans les arrivées. T'en as certains que les fans de Ligue 1 vont reconnaître. T'as Logan Costa, l'ancien de Toulouse, 18 millions. Pape Gay de l'OM. Juan Bernat qui est prêté par le PSG. Il y a un Français aussi qu'on ne connaît pas beaucoup en France, mais Tierno Barry qui est venu de Bâle pour 14 millions d'euros. Et puis évidemment, t'as énormément de départs. Donc c'est une équipe qui n'a vraiment pas le même visage que la saison dernière. Évidemment, on pense tout de suite à Alexander Sorloth, qui aujourd'hui est à l'Atlético, qui avait été vendu pour plus de 30 millions d'euros. T'as Cuenca, le défenseur, Jorgensen, le gardien, Aïssa Mandi, qui est au LOSC maintenant, et puis t'as des joueurs là aussi qu'on connaît bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens de Ligue 1 ou d'anciens joueurs, il y en avait déjà la saison dernière, mais t'as Capou, Coquelin qui sont partis. En tout cas, t'as vraiment une équipe qui s'est renouvelée, que ce soit sur le sens des arrivées et sur le sens des départs, donc il faut s'adapter à tout ça.
D'ailleurs, parenthèse Cocorico, mais c'est vrai qu'il y a une vraie histoire francophile entre Villarreal et le foot francophone d'une façon générale. Ouais, moi, je pense Pires, à Pires, Mavuba, Sigan, Chedjou. Il y en a eu plein.
Il y en a qu'on n'a pas cité. Eric Bailly, Nicolas Pépé, qu'on a vu en Ligue 1.
Et Robert Pires adorait vivre là-bas. Il adorait. Enfin, c'est la fin de sa carrière, quoi. Mais il a passé de bons moments.
Il a laissé une bonne image en plus.
Tout à fait. Mais d'ailleurs, il a laissé une bonne image parce que c'était un club tu vois, le côté club sympa,
familial,
qui reste, c'est un mec sympa. C'est vrai. Il était tout à fait adapté à la philosophie de cette maison-là.
Alors, sur la question des objectifs, hein, lorsqu'elle a été posée à Marcelino, il n'y répond pas franchement, Fredo. L'été dernier, déjà, il expliquait que l'ambition, c'était d'être le plus haut possible au tableau. Comment tu traduis ça, toi, concrètement ? C'est quoi l'objectif de Villarreal, finalement ?
Être européen, enfin. Moi, je pense sincèrement que, après les investissements qui ont été faits, la bonne gestion sportive et puis le projet à long terme, avec la miser très, très fortement sur Marcelino, quels que soient les résultats, la Conference League serait un échec. Et vu la configuration de la Liga cette saison, avec une baisse de niveau de beaucoup de clubs, je trouve que minimum, c'est l'Europa League. L'Europa League, c'est ce qu'on attend d'eux, vraiment minimum. Le souhaitable, c'est une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Bon, ils ne vont pas le dire, les entraîneurs, parce qu'après, on va dire, ah oui, ben...
T'as raté.
Tu sais, c'est comme la courbe du chômage, tu vois. Si la courbe du chômage ne baisse pas, je ne me représente pas. Ben bah, ouais, non, il va pas fixer d'objectif. Mais sincèrement...
C'est comme les audiences, quoi, c'est ça ?
Voilà, mais non, mais c'est, on va dire un truc très clair. Enfin, je veux dire, Villarreal a peu de vrais concurrents
à l'heure actuelle. Après, la saison, elle est longue, hein, Frédéric.
Oui, bien sûr, avec des blessures. Ouais. Non, mais quand tu regardes l'effectif, quand tu vois la qualité du club, tout ce qu'on a pu dire jusque-là, pour cette ambition-là de tout juste derrière les deux gros, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se permettre d'être là. Tiens, et Villarreal, oui, est là.
Et puisqu'on évoque Marcelino, tiens, regardons, analysons de plus près son Villarreal, alors qu'il avait retrouvé en cours de saison dernière, après son passage éphémère à l'OM. Marcelino, qui avait déjà entraîné un Villarreal entre janvier 2013 et l'été 2016 avec un certain succès, il avait notamment remonté le club en Liga. Edgar, à quoi ressemble le Villarreal de Marcelino sur le terrain, niveau jeu notamment ? Il y a des stats qui sont assez parlantes, hein, quand même.
Oui, bah on connaît Marcelino, c'est pas particulièrement un jeu à possession, il a 45% de possession, donc c'est un jeu plutôt direct, ça joue sur les ailes en 4-4-2 généralement, avec des joueurs de côté qui ont un rôle important, ça joue bien au foot techniquement, je pense notamment au match à Bernabeu au Real où j'étais, et c'est vrai que c'était un beau match de foot, tu sentais qu'il y avait de la qualité même s'ils ont perdu, et c'était assez net comme l'a dit Fred, on sent que c'est une équipe qui joue bien au ballon, sans être forcément dans le redoublement des passes, dans la construction très lente, très compliquée, c'est assez direct. On essaye de jouer assez simple et l'une des forces aussi de cette équipe, c'est les coups de pied arrêtés. Ils sont à 5 buts sur les coups de pied arrêtés, 6 buts de la tête, donc c'est vraiment une force. Voilà, c'est un petit peu l'identité de cette équipe, j'ai envie de dire quand même, qui joue avec de la simplicité.
Alors Marcelino, il a remporté la D2 avec le Recreativo Huelva en 2006. Il a remporté une Coupe du Roi, une Super Coupe également avec l'Athletic Bilbao. Il n'a jamais dirigé une équipe de top. Il t'inspire quoi, toi, cet entraîneur qui coûte plus de 200 matchs avec et qui compte plus de 200 matchs avec Villarreal, Fredo ?
Je suis pas un grand fan.
T'as fait un teasing sur Twitter, on a envie de savoir. Voilà.
Je suis pas un grand fan de la personne.
T'es pas le seul, je crois d'ailleurs.
Non.
Il y a Jürgen Klopp qui l'aime pas beaucoup.
Jürgen Klopp non plus, ouais. Enfin, je.
Alors, il y a eu un épisode d'ailleurs assez fort.
Bah, on va le dire, ouais.
Alors, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que il devait jouer face au Rayo Vallecano ce week-end. Le match donc a pas eu lieu pour les circonstances qu'on connaît. Et il a une histoire avec le Rayo, justement. Il y a eu un match face au Rayo qui avait fait scandale, où il y avait un match à distance pour le maintien entre le Rayo et le Sporting Gijón. Et là, il y a une histoire qui a fait beaucoup de buzz il y a quelques années en Espagne.
Oui, lors d'un précédent passage de Marcelino avec Villarreal, lui, il est asturien, il est de Gijón.
Ouais, comme Luis Enrique.
Voilà, exactement. C'est la même zone du pays. Et dernier match, Villarreal avait tous les points qu'il fallait. Enfin, tu vois, là, y a pas, c'est un match pour du beurre. Et Villarreal perd à Gijón. Ce qui permet au Sporting de Gijón de se maintenir. Bon, depuis, ils sont en deuxième division, ils ont du mal à monter. Et là, le soir de la défaite de Villarreal, sur la page Facebook de Madame Marcelino, il y a un message en disant « On rentre à la maison, on a fait le travail, allez le Sporting. » Alors, bien sûr, ça a été vu tout de suite.
Il est détesté, notamment à Vallecas, à cause de ça.
Bien sûr, ouais. C'est normal. Ouais. Donc, il y a eu une enquête de la Liga, et il n'y a pas eu de preuve qu'il y avait eu une volonté réelle de lâcher le match et de trafiquer la compétition, quoi. Ouais. Mais bon, c'est pas bon pour une image quand voilà.
Alors, et c'est pour ça que tu l'aimes pas, ou il y a autre chose ?
Non, il y a plusieurs trucs, c'est son attitude. Enfin, je pense que c'est pas un grand entraîneur. C'est un entraîneur du haut de la classe moyenne, entraîneur espagnol. Voilà, c'est-à-dire la preuve. Hein, on n'a jamais parlé de lui pour le Real ou le Barça, hein. Ou même l'Atlético. On commence à en parler un petit peu aujourd'hui en disant peut-être qu'après Simeone, ce serait pas mal, etc. Mais bon, l'Atlético n'a pas toujours eu des grands entraîneurs non plus. Donc voilà, c'est, ça peut le faire. Mais voilà, Joan Laporta, Florentino Pérez ne pense jamais à Marcelino Garcia Toral. Déjà parce que c'est un caractère très, très compliqué. Ouais. Il y a un épisode en Coupe.
En Ligue des Champs, en Coupe d'Europe
en Coupe avec Jürgen Klopp. Ouais, Jürgen Klopp, il y a un moment, ça ne se passe pas bien. Et il dit derrière, c'est la pire personne que j'ai jamais rencontrée dans le foot. Ouais. Donc voilà. Après, moi, je pense qu'il faut. C'est un bon entraîneur. Toi, si tu veux que ça marche. Bien, voilà. Mais il ne faut pas lui demander d'entraîner Cristiano Ronaldo. Donc moi, je pense que c'est voilà, c'est ça. C'est le haut de la classe moyenne. C'est la, voilà. Mais ce n'est pas la classe dirigeante. Ce n'est pas l'aristocratie du football.
Tu allais dire quoi, Edgar, toi, là-dessus ?
Sur Marcelino ?
Non, je crois que tu voulais dire un truc. Je t'entendais. Non, non ?
Non, non, j'écoutais avec attention l'expertise de Fred.
C'est bien que les jeunes écoutent les vieux.
Mais, ouais, ça, mais on t'a quand même présenté comme le taulier, donc il faut que j'écoute quand même.
Ouais. Ouais, bien sûr. Alors, tu vois, ces conférences de presse, il y a un petit côté un peu méprisant chez lui.
Non, mais moi, je trouve pas, tu vois, je me suis tapé des conférences de presse à lui.
Je peux comprendre que c'est pas un personnage qui, avec lequel t'accroches pas.
Non, mais il a une froideur, c'est pas un mec expressif, mais moi, je trouve
pas. Quand tu l'entends parler, t'as pas envie forcément, tous les jours, je peux comprendre qu'un supporter n'ait pas envie de le suivre contre vents et marées et tomber amoureux de lui et d'être complètement fan de cet entraîneur. Quoi.
En tout cas, on l'a entendu sur un truc, ouais. Edgar, c'est que Marcelino, il a dit qu'il avait des axes de progression. Alors, j'ai envie de te dire, moi, s'il y a bien un axe sur lequel il doit progresser cette saison, malgré cette belle quatrième place, c'est la défense, on est d'accord.
Mais 15e défense de Liga. Bah, 15e défense de Liga, 19 buts encaissés. Non, mais c'est fou parce que t'arrives à être 4e avec la 15e défense de Liga, j'ai envie de dire que c'est bon signe pour la suite parce que bon, tu peux difficilement faire pire. Et c'est-à-dire que t'as des axes de progression et surtout de perdre que contre le Barça et le Real quand t'es la 15e défense de Liga, c'est quand même assez impressionnant. Il y a clairement des ajustements à faire sur ça. Il y a aussi beaucoup de blessés, des joueurs qui reviennent, dont ceux qui ont été à l'infirmerie. T'as Logan Costa, t'as Bailly, t'as Kambouala, t'as Bernat qui n'avait pas du tout de rythme. On sait ces dernières saisons avec le Paris Saint-Germain. Il a besoin aussi de reprendre son rythme. Ça va apporter à l'équipe. Voilà, on verra ce que ça donne quand ils auront vraiment la défense au complet avec tous les joueurs au complet à 100%, mais c'est vrai que pour l'instant c'est l'axe de progression.
Alors, en tout cas, Marcelino il vise le plus haut possible avec Villarreal cette saison, l'entraîneur du sous-marin jaune qui reprend finalement le discours de ses dirigeants. Voici les objectifs affichés par Fernando Roy Negueroles, j'ai bien dit ou pas, qui est le DG du club. C'était avant le coup d'envoi de cette saison 2024-2025.
Tout d'abord, comme toujours, on va chercher match après match à se maintenir le plus vite possible. À partir de là, bien sûr qu'on veut atteindre l'Europe. On a besoin de se qualifier pour l'Europe, sinon on devra faire plus de ventes, baisser la masse salariale de l'effectif et ce n'est pas ce qu'on cherche. On est ambitieux, on a de l'envie et on croit qu'on a une équipe pour pouvoir atteindre la scène européenne.
Et on le disait tout à l'heure, hein, le dernier mercato a été particulièrement agité à Villarreal. La non-qualification d'ailleurs du club pour l'Europe cette saison a dû être compensée, pour reprendre les termes de Roy, financièrement. Oui. Alors Edgar, c'est un club qui ces dernières saisons est quand même très bien géré au niveau économique. Hein.
Oui, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un club bien géré, notamment sur le côté financier. On a plus 150 millions d'euros sur la balance des transferts sur ces trois dernières saisons. Quand on regarde un peu dans le détail, t'es à plus 13 millions cette saison. T'es à plus 100 millions la saison d'avant où il y avait eu énormément de grosses ventes. Je pense à Chukwueze qui était parti à Milan. Je pense à Jackson qui était parti à Chelsea. Ça a rapporté pas mal de sous à Villarreal. Et globalement, quand tu regardes, c'est pas très compliqué. T'as 10 ventes à plus de 20 millions dans l'histoire du club. Tu as deux achats à plus de 20 millions, donc forcément avec ce genre de stratégie tu gagnes de l'argent. Tu disais aussi on a dû s'adapter à la non-qualification, on a une petite baisse de budget et aujourd'hui on est à 110-115 millions d'euros. Ça représente, ça peut être comparé à un Stade Rennais, à un LOSC en Ligue 1, donc de réussir à jouer maintenant le top 4, ce serait bien pour ce club. Quand on regarde un petit peu niveau budget, ça a du sens en tout cas. Et comme on dit, ils ne sont pas dans les folies des grandeurs. Et voilà, on travaille bien et on gagne de l'argent pour l'instant.
Tu le disais tout à l'heure, Fred, c'est un club qui est familial. Alors, c'est le cas de le dire. Fernando Roy, il y a le père et le fils. Le père, propriétaire milliardaire, on va en reparler, qui a fait fortune dans la céramique, etc.
Garage.
Le fils, voilà, c'est le numéro 2, c'est le bras droit. Au final, Fernando Roy Alonso, qui est le papa, il gère un peu son club comme ses affaires. Quoi.
Complètement. Et c'est un modèle, parce qu'au moment où les clubs espagnols étaient dans la merde,
Il est arrivé dans les années 90.
Ouais, mais lui, ça c'est toujours bien. Enfin, c'est-à-dire que à Villarreal, ça se passait bien, quoi. Ouais. Voilà, c'est vraiment pas un club pour lequel on s'inquiétait. On s'inquiétait pour beaucoup, beaucoup de clubs, pour en gros 80% des clubs. Et lui, ça a toujours été une gestion très saine. Très saine. Je l'évoquais tout à l'heure, mais la dernière fois, ils sont descendus en deuxième division, ce qui est une grosse perte financière, ils avaient préparé le truc. C'est-à-dire qu'ils avaient mis de l'argent en disant c'est pas grave. On a l'argent pour pouvoir remonter tout de suite. Alors c'est amusant parce que Fernando Roig, c'est le frère de Francisco Roig.
Qui est le patron de Mercadona, je crois.
Qui avait été le président de Valence.
D'accord.
Et un président moins bien gestionnaire. Ah, Paco Roig, c'était vraiment pas le gestionnaire.
Je crois que son frère, il est actionnaire de Mercadona.
Oui, ouais, c'est un grand.
Qui est la chaîne de magasins
voilà.
alimentaires. Ouais.
Voilà,
ouais.
Exactement. Ouais. C'est une zone, on va dire, très popu, Villarreal. Hein. C'est une zone ouvrière. La plupart des gens travaillent dans.
C'est pas très beau en plus, pareil, non ?
C'est pas très beau, non. D'ailleurs, la plupart des gens habitent à Valence. Ouais. Des entraîneurs et tout ça, je sais pas où vit Marcelino, mais par exemple je sais que c'était Unai Emery, il avait la Valence. Donc non mais c'est vraiment bien géré, et franchement si tous les clubs étaient gérés comme Villarreal, mais le foot espagnol serait dans une bien meilleure posture financière.
Le 26 mai 2021 à Gdańsk en Pologne, Villarreal battait Manchester United en finale d'Europa League au terme d'une épique séance de tirs au but, 11 à 10 pour les Espagnols. Et Edgar, ce jour-là, Villarreal remportait la toute première finale de son histoire, toute compète confondue d'ailleurs.
Oui, c'est fou parce que c'est quand même un club centenaire, hein, 1923 la fondation, et le palmarès n'est pas très fourni, 25 saisons de Liga, ils n'ont jamais remporté le championnat, ils ont fait seulement une deuxième place en 2008, t'as deux demi-ligues des champions en 2006-2022, mais ça non plus, ça remplit pas le cabinet de trophées, et puis ça t'as ce titre, 2021 avec monsieur Unai Emery, le monsieur... Ligue Europa, et voilà, c'est vrai que c'est leur première finale remportée. C'est assez fou quand on voit l'âge, j'ai envie de dire, de ce club.
Alors, la saison dernière, Villarreal avait terminé 8e à 4 points d'une qualif européenne. C'était vraiment la place du coup, hein. C'est-à-dire c'est la dernière place non qualificative pour la Coupe d'Europe. Et alors, l'Europe, Villarreal connaît bien. Sur les 10 dernières saisons, c'est seulement la deuxième fois que Villarreal n'est pas européen. Et sur ces 10 saisons, enfin, où ils sont allés en Europe, ils sont toujours allés au-delà de la phase de groupe. C'est vrai que Fredo, c'est pas la première équipe à laquelle on pense en Espagne quand on parle de Coupe d'Europe, et pourtant Villarreal, c'est peut-être l'un des clubs les plus réguliers sur la dernière décennie. C'est fou, non ?
C'est fou, on n'y pense pas. On va encore penser à Séville ou Valence. Bon, c'est vrai, c'est vrai qu'ils ont gagné une Coupe d'Europe il n'y a pas si longtemps. Ouais. Mais Villarreal, mais justement parce qu'ils travaillent bien. À partir du moment où tu travailles bien, où tu n'as pas de problème de fric, où tu recrutes bien. Bon, tu as eu la petite période l'an dernier où tu as un peu trop changé d'entraîneur, mais après, vite, tu es revenu avec un type avec qui tu l'as donné ta confiance, comme Marcelino García Toral. Mais c'est un super club. Et en plus, c'est un club qui est très humain. Par exemple, quand il y a eu la grosse crise, l'explosion de la bulle immobilière en Espagne, là, tout le BTP s'est écroulé, comme on dit, quand le bâtiment
va, tout va.
Va, bah, quand il ne va pas, il ne va pas. Et comme là-bas, c'est une région qui vit du carrelage, la céramique. D'ailleurs, le stade s'appelle le stade
de la céramique.
Et les sponsors, ce sont les entreprises de carrelage. Là, il y a eu plein de gens au chômage. Et là, la décision des dirigeants a été, écoutez, si vous êtes aux abonnés qui ont perdu leur emploi, ben vous continuez à venir gratuitement.
Ah oui.
Voilà, c'est pour expliquer la philosophie. Donc, c'est aussi, donc, quand un club se comporte comme ça avec toi, ben, t'as tendance à aller au stade et à te soutenir. Et quand t'as ton public, bah là aussi, et tu peux aller plus loin en Europe.
Est-ce qu'ils ont quand même un complexe d'infériorité par rapport à Valence ? Parce que
oui,
Valence,
oui,
c'est quand même l'histoire,
ouais.
C'est la grosse ville,
ouais,
c'est,
ouais,
c'est
oui,
la capitale
oui.
de la région.
Alors, je vais dire que c'est plutôt les gens de Valence qui ont un complexe de supériorité par rapport aux gens de Villarreal.
Ok, je vois.
C'est-à-dire que moi, j'ai des gens de Valence.
Même aujourd'hui, là, parce que quand tu vois la situation du club et tout.
Oui, mais alors, le club, ils ne la ramènent pas trop, mais même, c'est-à-dire au-delà du club, les gens de la ville de Valence.
C'est les bourgeois.
Regardent Villarreal, et c'est un peu les paletos, comme on dit en Espagne. On dirait les bouseux, quoi.
Ouais, ouais.
C'est un peu la truc. Mais c'est vrai que je peux te dire que les supporters de Valence, aujourd'hui, ils aimeraient bien avoir un président.
Ah bah tu m'étonnes.
Et la famille Roche, oui. Plutôt que la famille de Peter Lim à Singapour. Quoi.
Voilà. Je voulais qu'on termine sur une bonne note. Voilà, c'est fait. Voilà, merci c'est... beaucoup, Fred Hermel. Merci beaucoup, Edgar Gros. Merci. Bon courage, Edgar. Voilà, on est ravis de t'offrir une parenthèse avec autre chose que Kylian Mbappé à l'intérieur.
Voilà.
Merci Najib Boulaouine, Arthur Robert à la production. Merci Nicolas Goussin à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous.
RMC After Espagne.